Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info. Ah!
Bah, je sais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios? La plus rebelle des radios. Waouh!
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, volet et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec sur la tête. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi,
c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio più ribelle.
Paniquez, paniquez tout. Attends, paniquez pas.
Niquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Bonsoir, ici les Canu Info du vendredi 23 décembre 2022. On va commencer par les infos nationales.
Et dans la rubrique des infos nationales, on commencera par vous donner un petit mot sur un attentat contre un centre culturel kurde qui vient d'avoir lieu à Paris.
On continuera sur la victoire pour les étudiants de l'université Paris 8 dans une action en justice contre un logiciel de vidéosurveillance pour les examens.
Et puis on vous fera une rubrique frontière. On vous parlera d'abord de ce qui se passe en Angleterre où il y a un nouveau traitement appliqué aux exilés.
Et puis le lien est rapidement fait jusqu'à notre Darmanin national qui demande au préfet de rendre la vie impossible aux personnes étrangères.
On partira immédiatement dans les infos internationales aux États-Unis. On vous donnera des nouvelles de ce cher Donald Trump.
Et puis un petit peu de musique, de la santé.
Et dans la santé, on vous fera des rappels sur le Covid et l'autodéfense sanitaire puisque les fêtes approchent et que sans doute beaucoup d'entre vous, allez voir plein de gens. Alors comment on se protège contre le Covid ?
Et ensuite l'agenda qui est assez maigre, on ira en voir d'autres qui sont assez maigres aussi. Pour finir par les ACAB, on invite chacun qui écoute à nous téléphoner au 04 78 39 18 15 pour une idée d'ACAB pour la fin de l'émission.
Bonne écoute sur Radio Canu.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et c'est pas la révolution pour ce début d'information nationale sur Radio Canu, puisque malheureusement on a une très mauvaise nouvelle, puisqu'un attentat contre un centre culturel kurde vient d'avoir lieu cet après-midi à Paris. Au moins 3 militants kurdes ont été tués par balle dans cette rue de Paris. Selon les informations qui parviennent dans les différents médias, la personne qui aurait commis cet attentat serait un homme de 69 ans, connu pour des faits de violence et notamment une tentative d'homicide volontaire dans un camp de migrants dans le 12e arrondissement de Paris en décembre 2021. Donc il est probable qu'il s'agisse d'un attentat raciste, fasciste. Et suite à cet attentat, il y a une partie de la communauté kurde qui s'est rassemblée devant ce centre culturel. au moment en fait de la conférence de presse de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et avec très vite en fait des échauffourées puisque la police a largement gazé cette communauté. On vous en dira sans doute plus sur ce triste attentat. En attendant, évidemment, soutien plein et entier à toute la communauté kurde.
Là-dessus, un message un petit peu de réjouissance. Début décembre, la Quadrature du Net a soutenu un mouvement étudiant qui prenait de l'ampleur à Paris 8. En fait, les étudiants s'étaient au fur et à mesure réunis et mobilisés pour dénoncer Test service de télésurveillance, plutôt déshumanisant, discriminant, intrusif et puis clairement illégal. Le 15 décembre, le tribunal administratif de Montreuil, saisi en urgence, a décidé l'arrêt de ce logiciel. Donc c'est une victoire pour les étudiants. Et une victoire aussi pour la surveillance de masse qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout depuis la période Covid. Il y a d'ailleurs un bon projet de loi qui se prépare pour les JO 2024. Ce sera une affaire à suivre. Du coup, test, oui, c'est un logiciel clairement de télésurveillance. C'est une espèce de combinaison dystopique comme la vidéosurveillance algorithmique, comme dans l'espace public, et la surveillance sonore algorithmique. Cette test, oui, se targue de surveiller automatiquement les candidats pendant les examens. Leur comportement, le regard, l'environnement sonore, la surveillance même de l'ordinateur des candidats avec sécurité désactivée, donc vraiment open bar. En tout cas, toutes ces manières de faire a conduit le tribunal à dire que cette surveillance était disproportionnée et donc probablement illégale. Donc, le combat a été en partie mené par les étudiants qui sont à l'Institut d'études à distance de Paris 8. Ils ont réussi à se mobiliser et à se faire entendre en appelant pour une aide juridique la Quadrature du Net, du coup. Donc, il est bien clair qu'on ne peut pas, sous prétexte de lutte contre la fraude, autoriser ce genre de contrôle. Dans un principe de proportionnalité, donc le fait que la collecte de beaucoup trop de données dépasse l'entendement par rapport à l'objectif poursuivi, ça classe vraiment ce logiciel dans un abus de données personnelles et puis voire d'atteinte aux libertés publiques. Et puis il y a plusieurs questions qui peuvent amener aussi suite à ça. Que deviennent les données au niveau de la surveillance? Là on est vraiment sur une surveillance humaine au niveau du comportement et des informations personnelles. Et sous couvert de surveillance, on part aussi du principe que les étudiants sont de potentiels fraudeurs qu'il va falloir corriger. Le patron de cette start-up, justement, la suite à cette décision, dit que c'est vraiment le rêve des cancres, qui, lui, est bien certain qu'il y a besoin de contrôler pour lutter contre le retard des universités françaises, les diplômes au rabais, etc.
Bien entendu.
Donc, c'est toujours ce réflexe de voir la surveillance comme la solution. C'est un cauchemar s'il n'y a pas de contrôle. C'est un cauchemar s'il n'y a que du contrôle.
Et ben voilà, bravo, n'empêche, aux étudiants et étudiantes de Paris 8.
Bravo.
Et à la Quadrature qui s'est soutenue pour cette victoire contre la surveillance. On n'en a pas beaucoup des victoires actuellement, on n'en a pas beaucoup non plus contre la question de surveillance. Donc c'est une bonne nouvelle. Il n'y en aura pas beaucoup ce soir.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe. Forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border!
La thématique frontière, du coup. Il y a eu un événement au Royaume-Uni. La Haute Cour de Londres a validé la possibilité pour le gouvernement britannique d'expulser des demandeurs d'asile au Rwanda rentrés illégalement sur le sol britannique. Le gouvernement est donc dans son droit de renvoyer le traitement des demandes d'asile sur le territoire rwandais plutôt que sur place. Là-dessus, bien sûr, les associations de défense des droits de l'homme et des réfugiés est montée au créneau pour dénoncer la cruauté de cette organisation et le risque grave aussi compte tenu des systèmes judiciaires et autres traitements administratifs des pays originaires de violation de la Convention de l'ONU sur le statut des réfugiés. Pour l'heure, en tout cas, aucune expulsion n'a encore eu lieu, mais le gouvernement de Rishi Sunak poursuit cette entreprise. Alors, on est toujours un peu désappointés, ces pays-là, européens, dont d'autant plus la France, pays des droits de l'homme, mais qui font quand même peu de cas des exilés qu'ils accueillent sur leur territoire. Ça peut rappeler, ça c'est quelque chose qu'on peut connaître, les années 2010 sous Sarkozy, où le problème des laissez-passer consulaires s'était un petit peu empilé sur la table pour envoyer les migrants. Et un certain nombre de pays qui ne voulaient pas donc délivrer ces passés consulaires pour réintégrer les migrants renvoyés de France. Sarkozy avait passé un accord avec le Sénégal pour envoyer tous ceux qui ressemblaient à peu près à des ressortissants de l'Ouest africain au Sénégal, où ils étaient du coup identifiés et puis renvoyés dans les pays un petit peu limitrophes de l'Europe de l'Ouest. Il y avait aussi en 2017 Macron qui a tenté de faire ça en développant des missions de l'OFPRA sur des hotspots, fiers de sa Startup Nation, encore une fois, donc qui étaient des hotspots, des points d'accueil. Alors autant en Italie, par exemple, que Macron était décidé à soutenir pour participer au calvaire du traitement des migrants sur notre territoire européen. Et puis, beaucoup plus loin dans le terrain, du coup, sur créer des missions de déplacement de l'OFPRA, mais sur le terrain, au plus près en tout cas, avant leur départ en migration, pour bien sûr leur éviter de prendre des risques complètement inconsidérés que de fuir de manière illégale. Donc c'est une espèce d'histoire de repousser les frontières de l'Europe toujours un peu plus loin que l'Europe, dans cette idée de, bon, bah, si on traite le problème de tous ces demandeurs d'asile sur place, on laisse le pays faire et gérer, c'est pas nous les discriminants, les tortionnaires et les liberticides et puis les non-accueillants, ça se passe ailleurs, loin de chez nous, et on s'en porte pas plus mal au niveau de l'image. La Cour européenne des droits de l'homme a suspendu l'expulsion, en tout cas pour revenir à la Grande-Bretagne, mais en demandant à la justice de trancher. Sauf que la justice a tranché, le gouvernement anglais a le droit, donc c'est un petit peu aussi cette décision outre-Manche, la porte ouverte a peut-être donné des idées à d'autres pays européens. On peut se dire que Gérald Darmanin pourrait être sensible à cette idée. Même si finalement on se rend compte qu'on est déjà un petit peu tous au niveau européen dans ces mouvements-là de financement de l'horreur, il y a un rapport de la Commission européenne sur Frontex et sur leur tentative, enfin leur réalisation il y a quelques années de pushback illégaux, c'est-à-dire qui repoussaient bien avant l'arrivée aux frontières et sur terre des bateaux du coup peuplés de migrants qui fuyaient leur pays. Ce qui a pu entraîner la mort d'un certain nombre. Fabrice Leggeri, là, le président de Frontex, il avait démissionné suite à ça. Peut-être que vraiment, c'était allé un petit peu trop loin pour lui, l'on ne sait. Une crise de conscience, tout d'un coup, qu'il l'a pris. En tout cas, éloigner tout ça, ça laisse donc encore une fois la maltraitance faite par d'autres loin de nous. Et puis, on en veut vraiment parce qu'on alloue des fonds absolument incroyable à des pays étrangers pour justement gérer les vagues migratoires avant qu'ils arrivent chez nous. Nos impôts financent des milices criminelles comme les milices libyennes qui réduisaient en esclavage des migrants au départ de Syrie et autres avant d'arriver en Europe. Berlusconi avec Kadhafi pour arrêter les migrants qui voulaient passer par l'Italie. Et donc il l'avait demandé aussi, sûrement avec des accords financiers, à Kadhafi de bloquer ces personnes-là. Comme le Maroc et les migrants dans des enclaves espagnoles, l'Europe paye les militaires marocains pour les stopper. Tuer ou pas, c'est pas le problème. Mais en tout cas, le but, c'est qu'ils ne paient pas une certaine limite. Bon, politique sécuritaire versus investissement positif, on ne sait pas bien la suite de tout ça.
La suite de tout ça, c'est quand même que c'est de plus en plus ce que certains essayaient de bâtir comme l'Europe forteresse. Effectivement, même si on repousse les frontières en Turquie, au Maroc, au Soudan, dans le fond, cette continuité-là. Mais on continue quand même d'adopter des comportements absolument violents et dégueulasses vis-à-vis des exilés qui se retrouvent sur le sol européen et notamment en France. Notamment, une dernière chose dont on peut vous parler, c'est ce qui s'est passé à Paris, mercredi 21 décembre, donc il y a deux jours, où 44 interpellations ont eu lieu et une vingtaine d'hommes afghans se sont vus remettre des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, par la préfecture de police, sans même en fait avoir pu déposer de demande d'asile. Hein. C'était avant qu'ils demandent l'asile. On parle de personnes qui viennent d'Afghanistan, donc bien entendu, comme chacun le sait, un beau pays en paix. Et le motif qui a été retenu pour ce renvoi, ces OQTF, en fait, vers ce pays en guerre qui est l'Afghanistan, puis qui ne respecte pas les droits de l'homme, etc., on pourrait faire une longue liste, c'est l'entrave à la circulation de véhicules, puisque en étant dans des tentes où il a essayé de dormir, ces hommes afghans empêchaient les voitures de passer ou empêchaient les voitures de police de passer. Voilà. Donc c'est aussi une application directe d'une demande de Darmanin envoyé express au préfet, comme le relatait le site Mediapart, puisqu'en effet, Gérald Darmanin a enjoint les préfets, je cite, donc la citation qui est proposée dans Mediapart, c'est de rendre la vie impossible aux personnes étrangères, comme si elle n'était pas déjà assez, aux personnes étrangères en particulier faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, des OQTF. Et la demande express dans l'instruction datée du 17 novembre envoyée au préfet, c'est d'appliquer la même méthode employée pour le suivi des étrangers délinquants, en fait à tous les étrangers ayant une obligation de quitter le territoire français. Donc c'est un pas de plus, vers la criminalisation totale du fait de migrer, qui, évidemment, on n'a pas besoin de le rappeler ici, ne devrait jamais constituer, ne serait-ce qu'un délit ou quoi que ce soit, mais être permis à chacun et chacune.
Je suis tombée sur la déclaration commune France-Royaume-Uni là, du 14 décembre. Donc je pense que ça boucle la boucle. Tout est bien en marche. Ne nous inquiétons pas, les bonnes idées traversent la Manche. En tout cas, donc, c'était une déclaration conjointe du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer de la France, M. Gérald Darmanin, et de la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, Mme Suella Braverman. Donc, tôt ce matin, ça, on en a entendu parler effectivement, 14 décembre 2022. Les autorités ont été alertées d'un accident dans la Manche concernant une embarcation de fortune en détresse. Malheureusement, plusieurs décès ont été confirmés. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cet événement tragique. Et au nom de la France et du Royaume-Uni, nous adressons nos plus sincères condoléances aux proches des personnes concernées. On peut pas s'empêcher quand même d'avoir eu un petit rire, non, en lisant ça. Une réponse coordonnée à cette terrible tragédie a été mise en œuvre, les acteurs français et britanniques travaillant conjointement. Nous saluons l'engagement de tous ceux qui y ont contribué. Cet accident tragique, comme la disparition d'au moins 27 personnes le 24 novembre de l'année dernière, est un rappel brutal de l'urgente nécessité de détruire le modèle économique des passeurs. Nous avons empêché plus de 30 000 traversées jusqu'à présent cette année. Avec d'autres partenaires européens, dont Europol, nous avons mené plus de 500 arrestations depuis 2020. Nous sommes récemment convenus d'un cadre bilatéral renouvelé pour lutter contre l'immigration clandestine, avec une collaboration et un échange d'informations plus étroits au plus grand nombre d'agents français équipés de technologies de pointe pour patrouiller les côtes françaises, et des agents britanniques et français travaillant avec les équipes de l'autre pays en tant qu'observateurs intégrés. Nous avons également tenu une réunion au format Calais, Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas à Bruxelles le 8 décembre et avons décidé avec nos voisins européens d'intensifier notre coopération policière, frontalière et judiciaire à leur rencontre avec le soutien des agences de l'Union européenne. L'accident tragique d'aujourd'hui souligne l'importance d'accomplir des progrès ensemble. Voilà, sur un fait divers, on va encore...
Ouais, c'est quand même le cynisme absolu de donner des condoléances et de dire qu'on va encore plus agir. Et de dire que le problème, c'est l'information, notamment des gardes-côtes. Alors que, en fait, le fait divers dans ces questions, on le rappelle, c'était que ces 27 personnes ont appelé, il y a des enregistrements qui le prouvent, les autorités françaises qui, en fait, ont refusé d'agir tant qu'ils étaient dans les eaux françaises pour qu'ensuite... Il meurt dans les eaux internationales, c'est-à-dire, ça s'appelle strictement laisser mourir des gens.
C'est ça.
Voilà, l'horreur continue. On espère qu'un jour, ça s'améliorera. Soutien à toutes les personnes qui traversent des frontières. Et on part à un autre endroit où il y a des frontières dégueulasses.
And now, in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
On va partir de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Rappelons-nous, assaut du Capitole, 6 janvier 2021, victoire de Joe Biden, recompte, etc., des résultats par le Congrès pour revalider la victoire de Joe Biden. Et tout un tas d'Américains qui ont pris d'assaut le Congrès. Bref, en tout cas, les conclusions accablantes, quand même pour Donald Trump, sortent de la commission d'enquête parlementaire qui a été organisée il y a 18 mois à peu près. Lors de son ultime audition publique lundi, donc l'instance a retenu 4 motifs possibles pour une inculpation de l'ancien président. Obstruction d'une procédure officielle, certification des résultats au Congrès après la victoire de Joe Biden, conspiration contre les États-Unis, conspiration en vue de produire de fausses déclarations et incitation ou aide à une insurrection. Mais donc la décision maintenant, c'est quand même des accusations extrêmement fortes. En tout cas, la décision désormais revient au ministre de la Justice qui doit voir avec le procureur spécial qu'il avait désigné en novembre, Merrick Garland, à comment métaboliser ce rapport parlementaire pour en faire un gros chef d'accusation et un dossier d'accusation. Les 9 élus de la Chambre des représentants estiment qu'ils disposent de suffisamment de preuves après donc ces 18 mois de recherche. Après leur adresse au ministère de la Justice, il faut maintenant envisager la construction du dossier pour justement valider les poursuites justifiées contre Donald Trump. Donald Trump doit être poursuivi comme un criminel en raison d'actes de gravité exceptionnels. Donc c'est une conclusion historique et symbolique aussi de cette Chambre des représentants. Il faut agir vite néanmoins. Merrick Garland, là, ce procureur général qui a été nommé, doit être assez efficace. En effet, la Chambre des représentants, la nouvelle Chambre qui a été élue à mi-mandat, aux élections de mi-mandat, va entrer en vigueur en janvier. Donc, elle est quand même fraîchement renouvelée d'une majorité républicaine et qui étaient à peu près tous dans ce même état d'esprit qu'une fois la prise de leur fonction, ils annonceraient la volonté de dissoudre et d'arrêter cette commission-là. Donc, il y a un peu là une course contre la montre pour aboutir à cette avancée-là de cette commission d'enquête. Le procureur général Merrick Garland, alors on entend dire du coup qu'il a en fait 2 options, alors qu'il y a clairement quand même des faits qui prouvent la culpabilité de Donald Trump pour des faits extrêmement graves. Il est un peu dans soit je renonce à poursuivre Trump, ce qui créerait quand même un dangereux précédent d'impunité, soit il engage la procédure, mais il court le risque d'alimenter l'impression d'une justice partiale, qui est quand même un des dadas de Trump et de ses sympathisants sur le fait d'une sorte de machination et d'acharnement sur sa pauvre petite personne. Donc, avec ces bonnes nouvelles tirées de tonnes de perquisitions, d'heures de témoignages enregistrés de proches jusqu'à son ancien chef de cabinet ou son avocat, le comité du Congrès a voté pour publier en plus 7 ans de ses déclarations de revenus, qui va peut-être rajouter quand même à son dossier, parce que probablement que peut-être on va arriver à trouver aussi tout un tas de révélations sur des actions, des activités criminelles et autres. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle, finalement, presque de fin d'année, que ce mec-là, un jour, puisse payer de son comportement.
Que de bonnes nouvelles ce soir. Et du coup, on offre une petite pause musicale et on écoute.
On a une coup de Kendrick Lamar avec All Right.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be all right. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the face down. Scheming, now let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy
and tell them all to come and get me. Reaping everything I sow. So my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster. In silence for the record. Tell the world I knew it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po. Wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow. But we gon' be alright,
right. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. In a profit, big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day a sequel, if I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Big back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow. But we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
Canu Info du vendredi. Rubrique Santé, Handicap.
Les patients, ils manquent de plein de choses, ils manquent de soins, je ne peux pas leur offrir le temps nécessaire à leur bien-être.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris pour demander une vraie individualisation de l'allocation adulte handicapé.
C'est vrai que le gouvernement n'a pas soutenu cette mesure.
Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades.
It's basic truth of the human condition. Everybody lies.
Hello. I'm the doctor. Basically, run.
Et de retour dans le Canu Info pour vous parler eh bien, du Covid, puisque la pandémie est toujours là. Et il se trouve que probablement un certain nombre d'entre vous vont vous rendre soit dans des fêtes familiales, soit amicales, soit tout ce qu'on vous souhaite de meilleur. Et que du coup vous allez fréquenter pas mal de monde dans une période où les contaminations sont quand même très nombreuses, puisque le variant est très près, les variants multiples, le virus est très présent dans l'air et que bah, globalement on peut plus trop compter évidemment depuis maintenant un bon moment sur l'État pour nous proposer de nous défendre contre le Covid ou d'adopter des mesures de bon sens comme par exemple le port du masque ou d'autres choses comme la ventilation. Et ça tombe bien puisque il se trouve que peut-être on peut se passer de l'État et faire nous-mêmes ce qu'on pourrait qualifier d'autodéfense sanitaire. Et une super page vient d'être mise en ligne qui regroupe toutes les infos et les sources nécessaires pour connaître et se protéger du Covid. Cette page, elle est à classer dans vos favoris de votre navigateur internet, imprimée et à mettre entre toutes les mains. C'est aussi une page sur laquelle il y a des mises à jour régulières. Je vous donne l'adresse, c'est pas forcément facile à retenir. https://, l'important est là, intempestive, donc intempestive.net/autodéfense-sanitaire. On redonnera cette adresse à la fin, on la mettra peut-être même sur le blog du Canu Info. Cette page, elle contient un certain nombre d'informations, elle contient des sources, elle contient des liens qui vous envoient vers des analyses de fond, et puis évidemment, toutes les infos sont sourcées. Et ici, on vous en propose quelques extraits, notamment la synthèse du mémo express sur la protection mutuelle, comment se défendre contre le Covid. Et puis pour commencer, une dizaine de points de connaissances à avoir sur le Covid pour tout simplement savoir de ce dont on parle, parce que c'est pas si évident en fait d'avoir accès à une information concentrée. Donc on va commencer déjà par la définition. Aujourd'hui, le Covid-19 est une maladie vasculaire systémique qui peut toucher plusieurs organes vitaux et non seulement les poumons. Hein, ça, on a beaucoup cru que c'était une maladie pulmonaire, ça n'est pas le cas, c'est une maladie vasculaire. Deuxièmement, la question de l'incidence. La pandémie de Covid-19 ne s'est jamais arrêtée depuis 2020, même si on entend des expressions un peu partout du type post-Covid ou depuis la fin du Covid, etc. Ça n'est pas une pandémie saisonnière, on l'a constaté. Il y a eu un gros pic en France en juillet, il y a à nouveau un gros pic aujourd'hui en décembre. Et elle n'est pas endémique. Alors endémique, ça veut dire que ce n'est pas une maladie qui est devenue habituelle dans une région donnée, hein, circonscrite comme un territoire, et avec une incidence limitée. Ça n'est pas non plus une pandémie endémique. Et aujourd'hui, donc, cette incidence, des personnes continuent à en mourir, des personnes continuent de développer des formes longues et possiblement très invalidantes du Covid-19. La pandémie n'est pas finie. Alors, comment ça se transmet ? La question de la transmission, c'est notre troisième point. Le Covid se transmet par aérosol, c'est-à-dire par la simple respiration. C'est ce qui le rend malheureusement très problématique. Le virus, en fait, remplit rapidement une pièce non aérée et s'y maintenir en suspension plusieurs heures, et peut s'y maintenir plusieurs heures après le départ de la personne malade. C'est-à-dire qu'il peut, si vous êtes dans un endroit très très dense, vous arrivez, vous débarquez sans masque dans un petit espace, comme par exemple le studio de Radio Canu, nous sommes masqués actuellement, potentiellement vous risquez d'être contaminé de cette manière-là par l'aérosolisation. Pour prendre une métaphore un peu, hein, l'aérosolisation ça fonctionne exactement comme la fumée de cigarette. Chacun, chacune d'entre nous l'a expérimenté, quand vous êtes dehors et quelqu'un fume à votre proximité, vous sentez éventuellement un petit peu l'odeur et puis elle se dissipe très très vite. Si vous êtes dans une pièce, plus la pièce est petite, plus de personnes fument. Et bien plus on a une concentration de fumée de cigarette qui rend assez vite l'odeur irrespirable, ben l'aérosolisation c'est exactement la même chose. Si vous aérosolisez un air non contaminé, c'est-à-dire qu'il ne porte aucun virus aérien, ben il ne va rien se passer. Si on est comme actuellement dans une période pandémique et où d'autres épidémies se greffent, et bien on peut avoir des problèmes. Sans masque et quand la concentration de virus est élevée, le risque de contamination est donc maximal. Porter un masque sous le nez ne sert par conséquent strictement à rien, puisque ça vous protégera ni vous ni les autres. Et se tenir à 2 mètres de distance dans une salle pleine de Covid-19, ça sert à rien non plus. C'est aérosol, toujours l'aérosolisation qui compte. Et enfin, le gel hydroalcoolique qu'on met un peu partout, il permet de réduire la contamination des malades dits qui se transmettent par les mains, comme par exemple la gastro, mais il n'a strictement aucun effet pour les maladies qui se transmettent par la respiration, comme le Covid, par exemple. Ça ne vous empêche pas de vous laver les mains proprement, c'est bien de ne pas avoir la gastro non plus, mais sur la question du Covid, la transmission, il faut retenir, c'est l'aérosolisation. Quatrième point, le Covid long. Alors, tout le monde est à risque de Covid long, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le Covid long ? Une persistance pendant plusieurs mois, voire années malheureusement, de symptômes qui peuvent être très variés, puisqu'on l'a dit, hein, c'est une maladie vasculaire qui touche plusieurs organes, donc des symptômes respiratoires, cardiaques, neurologiques, hein, donc notamment des pertes de concentration vasculaire, dermatologique, ORL, digestif, on a beaucoup de symptômes possibles sur le Covid long. Le Covid long, il peut prendre une forme très invalidante et des formes qui le sont un peu moins, donc on ne va pas forcément le diagnostiquer de la même manière. Et le pourcentage de personnes affectées, en fait, il varie aussi selon les études et en fait selon les pathologies qu'on traite. Le chiffre de 10% est assez souvent avancé. 10% des personnes contaminées hein, qui développeraient un Covid long. Mais en fait, selon la définition du Covid long, ça peut chuter à 5% si on a une définition réduite, ou bondir à 50% si on considère toutes les personnes qui, au-delà des 7 jours de contamination, ben, ont des effets persistants. Reste qu'en France, le chiffre officiel de santé.gouv, c'est que le nombre de malades de Covid long est estimé à 2 millions de personnes. Donc c'est quand même assez massif. 2 millions aussi en Grande-Bretagne et 24 millions aux États-Unis par exemple. Pour donner un autre chiffre qui n'est pas présent sur cette page mais qui sera peut-être ajouté, en Suède, donc qui est le pays où il y a eu le moins, on va dire, de protocoles sanitaires à aucun moment, on estime que 14% de la population est en Covid long. 14% de la population, hein, pas 14% des personnes qui ont été infectées. Donc on voit que c'est un gros problème. Ce risque, évidemment, il s'accentue à chaque nouvelle contamination, y compris une nouvelle fois, alors on l'a dit un peu avant, mais ça touche aussi les enfants, hein, le Covid bien sûr, on a prétendu le contraire parfois, mais ça touche aussi les enfants. Parmi les personnes hospitalisées en réanimation pour Covid-19, qui ne sont pas décédées en réa, ce qui est une chance pour elles, hein, donc ça représente quand même 1 million de personnes en France, le nombre de personnes qui ont été hospitalisées pour le Covid-19, environ 15% de ces personnes doivent être traitées dans les mois suivant leur sortie de réanimation au sein d'unités spécialisées. Donc on a quand même aussi là une persistance des symptômes, notamment pour les gens qui ont eu des formes très graves. Plusieurs hypothèses sont en cours sur les causes du Covid long. On étudie la présence de caillots sanguins, la persistance du virus dans l'organisme, le fait qu'il ne s'en aille pas après une certaine période, l'emballement du système immunitaire, qui se détraque tout simplement, qui parfois se retourne contre les personnes. Et bien évidemment, on en saura sans doute bientôt davantage avec les études scientifiques. Un petit point sur cette partie sur le Covid long. La page que je vous ai citée, qui est vraiment très bien faite, contient en fait aussi des liens vers des lieux de soins spécialisés, parce que c'est pas toujours simple de trouver des toubibs et des soignants qui vont pouvoir vous accompagner sur cette pathologie un peu naissante et méconnue, et aussi des collectifs de victimes de Covid long qui tentent de s'auto-organiser, alors que l'État en France et certains médecins aussi ont encore du mal à reconnaître la réalité de cette pathologie. On a vu récemment sortir des choses comme quoi c'était psychosomatique, etc. Alors qu'on peut faire des radios qui montrent qu'il y a des dégâts, quoi. Cinquième point, la question de l'immunité. Avoir le Covid ne renforce pas le système immunitaire. D'ailleurs, avoir n'importe quelle maladie ne renforce pas le système immunitaire. C'est une croyance assez parcourue qu'il faut être malade et puis qu'on s'en portera mieux. Si vous êtes malade, vous êtes malade, c'est négatif, point barre. Il n'y a aucun gain, jamais. Non seulement l'immunité demeure passagère quand on a le Covid, une réinfection peut se produire quelques semaines après la précédente, y compris avec le même variant, en plus avec la soupe de variants et la quantité de variants, vous pouvez être réinfecté très très vite. Et chaque infection augmente le risque de séquelles, donc à nouveau Covid long, mais aussi maladies cardiovasculaires, diabète, on sait que ça fait exploser les taux de diabète et de maladies cardiovasculaires, qui sont comme la première cause de mortalité en France qu'ont explosé. La prétendue immunité collective, dont vous avez déjà entendu parler, on n'en parle plus trop, mais c'était un peu un délire des gouvernements au départ, qui était de dire si les gens s'infectent, ils vont devenir immunités, elle n'existe pas. De la même manière que la dette immunitaire, dont on entend parfois parler, qui disent, bon, en fait, si par exemple, il y a des gamins qui se retrouveraient aujourd'hui en train de mourir dans les services de réa, c'est parce qu'ils n'auraient pas été exposés à des virus et donc ils seraient fragiles. Bah, c'est faux, c'est une falsification scientifique qui vise à légitimer le renoncement en fait, de toute protection. C'est des choses qui ont même été théorisées. Notamment par des libertariens qui pensent ces choses assez fortement. La dette immunitaire, ça n'existe pas. La recherche, elle est toujours en cours, mais les données scientifiques s'accumulent sur le fait que le Covid-19 endommage le système immunitaire et en fait expose les personnes contaminées à d'autres maladies infectieuses après leur guérison du Covid. C'est-à-dire que plutôt que de renforcer votre système immunitaire quand vous contaminez, en fait, vous le contribuez à le détruire. Et donc, vous allez être plus susceptible derrière d'attraper ou de faire des formes un peu graves de à peu près toutes les maladies qui traînent dans l'air ou celles qu'on attrape avec les mains à nouveau. L'hypothèse qui est très sérieusement, cette hypothèse qu'on a une destruction du système ou un affaiblissement du système immunitaire par le Covid-19, elle est très sérieusement envisagée. Et là, à nouveau, aussi sur les enfants, ce qui pourrait expliquer notamment certaines incidences actuellement de la bronchiolite, qui, on le rappelle, la bronchiolite n'est pas un virus. La bronchiolite, elle résulte d'une infection virale qui peut être notamment le Covid-19. Sixième point ou septième, je ne sais plus.
Qui est une infection saisonnière aussi sur les enfants.
Oui, absolument. Mais qui est toujours lié à un autre virus, quoi. Ouais. Et qui aujourd'hui est très très forte, notamment parce que les gamins, en fait, ils ont été exposés à des tas de virus et ils ont souvent, probablement, on peut imaginer, un système immunitaire rabougri. La question de la vaccination. Le vaccin contre le Covid protège efficacement contre les formes graves et la mort, donc sauf pour une catégorie de population qui sont les personnes immunodéprimées, pour qui il assure une protection parcellaire, voire totalement inutile, sur certaines personnes qui ne réagissent pas au vaccin. Avec les vaccins actuels, cette protection, elle baisse en fait rapidement, elle devient insuffisante au bout de 6 mois, d'où la nécessité en fait des rappels réguliers. En France, donc la direction d'études statistiques assure un suivi statistique de la corrélation entre statut vaccinal, donc qu'il soit non vacciné, vacciné une seule fois, sans rappel récent ou avec un rappel récent, et hospitalisation, réanimation et décès, donc on peut croiser ces variables. Et ce suivi établit très nettement en fait, les bénéfices d'un schéma vaccinal complet et à jour, qui réduisent très fortement les chances d'aller en réanimation, d'avoir des formes graves et de mourir. En revanche, le vaccin, malheureusement, atténue un peu, mais n'annule pas la question de la contamination, de la transmission. C'est un des problèmes qui fait que le vax est une relaxe, genre je suis vacciné, je ne risque plus rien, réduit. Vous êtes bien vacciné, réduit les risques sur vous, mais réduisent pas forcément si vous pouvez transmettre le fait que des personnes moins réceptives au vaccin ou non vaccinées puissent, ou pas à jour, puissent avoir des formes graves. Donc là, c'est un peu un problème. Le vaccin protège peu, notamment contre la transmission, et il protège peu aussi contre le risque de Covid long. Vous pouvez être très bien vacciné, pas faire une forme grave, mais avoir quand même une forme persistante. Point suivant, je crois que c'est l'8e. La question des tests, puisque ça peut se poser notamment actuellement pendant les fêtes, de se tester avant d'aller en famille. Attention, aujourd'hui, seul un test PCR effectué au bon moment, c'est important à la fois que ce soit un PCR et à la fois le moment, permet d'avoir un résultat fiable. Donc en gros, si vous faites un test mais que vous avez PCR, mais que vous avez vu des personnes, vous avez pris un risque de contamination la veille, en fait, la maladie peut être en train d'incuber et que ce soit négatif. Donc en fait, il faut aussi un peu, à un moment, mettre de la distance entre, on va dire, un peu, si vous allez voir d'autres personnes, bah, du coup, la question du temps est importante. Et seul le PCR est fiable. Les tests antigéniques et plus encore les autotests, qui sont aussi des antigéniques qu'on se fait soi-même, en fait, ils ne sont informatifs que s'ils sont positifs. Donc un test antigénique ou un test, un autotest négatif, ça ne garantit absolument pas que vous puissiez ne pas être porteur du virus, puisqu'il y a beaucoup, malheureusement, de faux négatifs. Enfin, ils ne sont pas fiables, quoi, pour le dire autrement. En cas de test positif, il convient évidemment de s'isoler, de porter un masque FFP2 en présence d'autres personnes, et d'aérer régulièrement les espaces communs dans lesquels on demeure, ce qui permet potentiellement, si l'on cohabite, eh bien de ne pas transmettre. C'était seulement le 7e point, on arrive au 8e. C'est un peu long, mais je pense que ces rappels sont importants. On va faire un petit point sur l'antivalidisme, hein, le vivre avec, qui s'est imposé comme un peu le discours majoritaire de nos gouvernements, mais aussi, malheureusement, dirais-je, dans nos collectifs d'extrême gauche, anarchistes, etc., bah, c'est laisser mourir, vivre avec, tout simplement, si cela en fait signifie en fait laisser contaminer et se recontaminer des personnes. Ne prendre aucune mesure de protection mutuelle relève en fait ce qu'on appelle le validisme, hein, c'est-à-dire la discrimination liée à l'état de santé ou au handicap, et renforce les inégalités sociales, ce qui revient à exclure notamment des espaces communs les personnes soucieuses d'éviter toute contamination, soit parce qu'elles en sont soucieuses moralement et politiquement, soit parce qu'elles en sont soucieuses parce qu'elles sont par exemple immunodéprimées sévères ou que du coup elles courent un risque très très important et en sont conscientes. Pour rendre les lieux véritablement ouverts à toutes et à tous, on peut se référer notamment au guide d'accessibilité d'un événement des dévalideuses et par ailleurs à un texte récent du STA, le syndicat des travailleurs artistes-auteurs, qui a fait un petit guide en expliquant leur position et comment ils allaient s'organiser pour organiser des événements. Neuvième point, une phrase, zéro Covid, ce qu'on voit un peu parfois sortir, c'est en une phrase comment on sent, hein, il faut autant possible éviter toute contamination. Pour les autres comme pour soi, on a pu aussi voir surgir des discours à gauche qui disent mais le problème c'est que l'hôpital public est à plat. C'est vrai que l'hôpital public est à plat, mais le mieux probablement c'est de ne pas arriver en réa pour le constater, mais plutôt d'éviter de se contaminer. Enfin, un dernier point quand même sur la mortalité. Le Covid-19 tue de manière directe ou différée. Fin 2022, les chiffres de l'OMS, c'est 15 millions de décès dans le monde, donc en 3 ans, attribués au virus. Actuellement, on est environ à une centaine de personnes qui meurent chaque jour en France. Et par rapport à la période avant la pandémie, il y a aussi un net surmortalité qui ne s'explique pas uniquement par les décès directement attribués au virus, mais par les effets secondaires. Cette surmortalité, en fait, elle affecte davantage notamment les classes sociales défavorisées. Elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs, dont certains sont directement liés à la pandémie. On peut citer la surcharge des services de santé, effectivement, comme ça existe, la moindre prise en charge d'autres pathologies, on donne des priorités où les personnes évitent de se rendre dans des centres médicaux si, par exemple, elles sont à risque par rapport au Covid. La sous-évaluation des cas de Covid est une possibilité. Il y a aussi des maladies graves qui sont liées, comme on l'a dit avant, à en fait, la suite d'une réinfection du Covid, hein, notamment le fait que le système immunitaire prend un peu cher. Il y a les difficultés économiques liées au Covid, notamment pour les personnes qui sont obligées d'arrêter de travailler parce qu'elles sont au Covid long, pour les personnes qui ont eu des périodes de non-travail pendant les confinements. Bah, en fait, forcément, vous avez des difficultés économiques supérieures, vous allez moins bien vous nourrir, moins bien vivre, moins bien vous soigner aussi. Et donc forcément, ça c'est des pertes de chance assez évidentes. Et puis il y a quand même aussi la défiance accrue en fait, vis-à-vis de la médecine fondée sur les preuves. Alors on le voit beaucoup avec la question de l'anti-vaccination, mais qui repousse pas mal de choses. Pour le dire en un chiffre, en France en 2022, il y a eu 7,6% de décès en plus par rapport à 2019. C'est quand même assez conséquent.
Dû au Covid ?
Non, c'est la totalité. Mmh. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de savoir, mais ce qui est dû. Enfin, on fera des comptes sans doute dans.
Oui, c'est ça, parce que même pendant les grosses périodes Covid, on pouvait avoir la notion aussi que des personnes chroniques, tu vois, étaient retardées dans leur accompagnement de soins.
Oui,
et
bien sûr.
Et du coup, avec des flambées sur des pathologies qui normalement devraient être prises en charge.
Donc voilà, donc en fait, c'est tout le truc de dire il y a de la mort directe, donc les personnes qui sont mortes du Covid, donc ça c'est, on va dire, l'OMS, 15 millions de personnes, en France, 160 000 personnes à peu près à ce stade, à peu près chaque année, on a eu à peu près 50 000 morts. et effectivement les morts et puis les personnes qui ont leur traitement qui ne sont pas suivis. Enfin, en tout cas, les difficultés qui viennent avec différentes. Alors bon, je vais faire un très très long passage, je pensais pas que ce serait si long, parce que je commente évidemment bien plus que je ne lis strictement ma fiche. La question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, et ben on se protège, et puis on protège les autres, c'est le principe de l'autodéfense sanitaire, et puis voici un mémo express, ça va aller vite cette fois, de protection mutuelle pour vous souvenir des bons gestes à adopter. La première chose c'est de porter un masque FFP2, FFP3 ou N95, c'est les trois normes les plus efficaces, bien ajustées, c'est une chose, parce que si votre masque est mal ajusté, bah, c'est pas efficace. Et sans valve, il y a des masques FFP2 avec valve, c'est-à-dire que bah, vous vous protégez vous, mais vous balancez votre respiration sur les copains. C'est pas terrible. Ça, dans les espaces intérieurs, bondés ou en contact rapproché, hein, la règle parfois appelée les 3F, espace fermé, full face à face, y compris pour les enfants qu'il faut tout autant protéger que les adultes. Hein, les enfants peuvent porter des masques relativement facilement, c'est pas un problème. Se faire vacciner. En France, en règle générale, il est conseillé de faire un rappel tous les 6 mois à l'heure actuelle. Ça vaut de nouveau, y compris pour les enfants. Concernant les enfants à risque de forme grave ou vivant dans l'entourage de personnes à risque de forme grave, le vaccin est recommandé dès l'âge de 6 mois, un peu plus tard pour les autres enfants. Et pour les personnes immunodéprimées ou âgées de plus de 80 ans, hein, parce qu'avec la vieillesse aussi, le système immunitaire se dégrade, le rappel est recommandé chaque trimestre. On en est toujours dans ce mémo express. Veillez à la qualité de l'air, favorisez les rencontres en extérieur. C'est une chose assez évidente. Se voir dehors, ça permet globalement pas d'éviter toutes les contaminations. L'objectif, c'est de faire de la réduction des risques, mais quasiment tout, il se passe. Il y a très 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 peu de contamination en extérieur. En intérieur, aérer plusieurs fois par heure ou filtrer par purificateur d'air. Alors ça, pas grand monde en a. Parfois, vous pouvez avoir un capteur de CO2 qui vous permet de vérifier quand est-ce qu'il faut aérer, mais globalement, l'ennemi du Covid-19, mais aussi l'ennemi de la grippe, du rhume, de tous les virus aéroportés, en fait, c'est le courant d'air. Donc, faites des courants d'air. Évidemment, quand il fait très froid, c'est plus compliqué, mais vaut mieux avoir un peu froid sur le moment que de vous rattraper le Covid. Rappelons que le fait d'avoir froid ne vous donnera aucun virus, et que c'est bien le fait d'avoir un virus qui vous fait tousser, même si le froid permet de se... Mais bref, je dérive. Quatrième point, se faire tester en cas de symptômes ou si vous êtes cas contact, pour vous assurer aussi de ne pas contaminer une autre personne plus à risque. Avant, par exemple, un rassemblement, on peut convenir que tout le monde se teste. Et donc le test, comme on l'a dit, en PCR, en laboratoire, et puis ensuite agir en fonction du résultat qu'on espère évidemment pour vous négatif. Respecter les demandes de réduction des risques, c'est le cinquième point, c'est-à-dire quand des gens vous disent on veut que le masque soit porté ou on veut que ce soit aéré, les respecter, agir en conséquence. Le règle du consentement, elle s'applique aussi dans le domaine sanitaire comme ailleurs. Enfin, une chose qu'on peut faire, c'est diffuser autour de soi des informations fiables sur le Covid-19 et lutter contre la désinformation. Et voilà. Alors ces 6 recommandations, elles constituent une base nécessaire mais pas suffisante. Il y a plein d'autres informations un peu plus précises qu'on peut trouver notamment sur cette page dont on vous rappelait l'adresse pour aller un peu plus loin, essayer de bien comprendre. Plus vous prendrez le temps de vous informer, plus vous pourrez prendre soin de vous et bien comprendre ce que vous faites et aussi vous détendre parce que savoir ce qu'on fait, c'est sans doute beaucoup plus relaxant que de jouer à la roulette russe à chaque fois qu'on pénètre dans une pièce ou qu'on voit d'autres personnes. Toutes ces informations sont à diffuser largement. On rappelle l'adresse où elles se trouvent, c'est https://www.intempestive.net/autodéfense-6-sanitaire. C'était un long rappel.
Et puis du coup, de se rajouter que... Je trouve qu'en plus, Covid ou pas, que c'est quand même toutes ces techniques de protection, de contamination, isolent. Et qu'après, il y a d'autres difficultés qui arrivent par cet isolement créé. Et que par l'information et l'éducation aussi des citoyens, on peut aussi contrer ce danger-là du Covid qui ne fait pas partie du Covid, mais qui pourtant fait partie de la vie avec le Covid.
Préciser aussi que si on rend un événement accessible, par exemple en imposant le masque, on permet à des personnes qui ne seraient pas venues sinon de venir.
Bien sûr. Donc on qui aussi ont besoin d'aller à cet événement-là pour aussi vivre autre chose que...
Que de s'isoler pour prendre zéro risque. Et voilà, c'était le point Covid juste avant les fêtes. Et on vous passe tout de suite l'agenda.
Et on fait quoi maintenant?
Devine. Mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Au niveau de l'agenda, donc, c'est-à-dire qu'entre Noël et Jour de l'An, il n'y a pas foule, à part bien sûr Noël et le Jour de l'An. Ce qui persiste en tout cas sur Lyon chaque semaine, c'est bien sûr la permanence InfoShop à la Lutine, 14h à 18h. Sinon, sur d'autres trucs, je suis allée un peu voir sur l'agenda des syndicats, pas grand-chose non plus avant... début janvier, et puis sur les différents agendas de nos représentants politiques et autres décisionnaires, je peux juste vous annoncer que nos parlementaires reprennent leurs activités le 3 janvier, en fin de soirée, pour quand même, mais parce que c'est vraiment une thématique qui compte et qui importe à tout le monde, sur la mission d'évaluation de la loi numéro 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
Ah oui.
Et après, il faut bien attendre une semaine encore pour que les autres se remettent au travail.
Voilà, il se dit que la rentrée sera chaude. On peut déjà dire, ça a été plus ou moins annoncé de ci, de là, que suite à la décision de la métropole de Lyon de participer à l'expérimentation du syndicat sous condition d'activité... Enfin, du syndicat, n'importe quoi. Si c'était ça, ce serait super. Du RSA, pardon, sous condition d'activité. Eh bien, notamment, il a déjà été annoncé qu'il y aurait probablement des manifestations qui seraient organisées pour pousser la métropole à revenir en arrière. En tout cas, vous pouvez trouver certaines informations concernant cette thématique et d'autres sur rebellion.info.
Et ça vaudra le coup, certainement, d'être nombreux.
Oui. Oui, oui, parce que c'est quand même, une fois de plus, une attaque frontale parmi tant d'autres contre les pauvres qui sont évidemment responsables de leur situation et qui doivent en chier plus que ça n'est déjà le cas. On vous passe tout de suite un petit jingle à cap parce qu'on a reçu de nombreux appels.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire à cap?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Eh bien, salut Mathieu, on a reçu pas mal d'appels et du coup, ma collègue va vous résumer les propositions qui nous ont été faites.
Alors, on a eu autorité contrainte, all right, bonne fête. Et puis, affaires ciblées, à bazarder. Et donc une petite quand même, parce que bordel, en chance d'année, il faut bien un petit peu de baume au cœur. Les autres, parfois, ça a du bon.
C'est vrai, on aime les autres. Radio Canu, la radio de l'amour des autres. on vous retrouve peut-être la semaine prochaine pour le dernier Canu Info de 2022. Et puis voilà, on vous embrasse, passez une bonne soirée. Si vous avez des fêtes, protégez-vous et mangez trop. À très bientôt. Tout de suite, c'est Noise Pollution. Ciao.